France Musique.
Merci Philippe Cassard. À samedi prochain.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Décollage du troisième numéro du Cri du Patchwork, placé sous le regard de l'écoute et des paysages sonores qui nous entourent. Nous recevions la semaine dernière Magali Vialfond, qui nous a offert un aperçu de son expérience de l'écoute chez les publics sourds et malentendants. Une manière pour nous de comprendre comment l'écoute de l'autre peut changer la nôtre. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons ce parcours à la découverte de l'écoute de nos congénères, par la rencontre avec Grégoire Lorieux, compositeur associé à l'ensemble Ars Nova, qui révèle aux lycéens leurs espaces sonores, leurs paysages composés. Et comme chaque semaine, un zoom sur une œuvre de la fin du XXe siècle et un son pêché dans l'histoire de la musique. Le cri du patchwork, thème numéro 4, épisode numéro 3, séquence numéro 1.
Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le son du verre. Une matière qui, en fonction de ses modes de jeu, peut aisément passer du plus doux des sons au plus violent et douloureux. Le verre est la matière des extrêmes. On en fait l'expérience nous-mêmes. Du tintement du chin ou des bouteilles qui s'entrechoquent, on s'étonne tout seul de la beauté de certains sons produits par certains verres. Oh ! Eric Satie demande à construire un bouteillophone pour jouer les acrobates de son ballet Parade. Peu d'orchestres aujourd'hui cherchent à reconstituer cet instrument difficile à obtenir. Chaque bouteille doit être accordée pour pouvoir jouer précisément la mélodie demandée. Donc on le remplace aisément par un xylophone. Quelle hérésie! Comme un écho lointain au bouteillophone d'Eric Satie de 1920, le compositeur Beat Fuhrer fait du verre frappé une résonance du piano devenu simple marteau, Impact, dans son concerto pour piano de 2007. Et les bouteilles de créer un délitement du son du piano pour le conduire vers ses sons cristallins propres au cristal, au verre.
Thank you.
Mais dès le début de son concerto pour piano, Beat Fuhrer utilise déjà les deux gestes principaux de l'utilisation du verre dans la musique, le tintement et le frottement. Qu'il soit fait par les doigts humidifiés ou un archet, le frottement sur le bord d'un verre en cristal crée une texture totalement indescriptible, qui fascine depuis que le verre est verre. Dans ses Black Angels, George Crumb met en scène les membres du quatuor à cordes posant leurs instruments pour venir frotter des verres accordés. Un écho direct au nom de l'instrument constitué de verres frottés et accordés. Le séraphin. Le son des anges. Que tout le monde n'apprécie pas. L'instrument qu'inventa Benjamin Franklin en 1761 en fit les frais. Plutôt que de tourner les doigts sur les verres posés devant le musicien, Franklin inventa un mécanisme qui permettait de faire tourner des verres de différentes tailles sur lesquels il suffisait alors de poser les doigts, permettant de réaliser des accords jusqu'à 10 sons simultanés. Fascination immédiate de ses contemporains, Mozart écrit de courtes pièces pour le nouvel instrument, j'ai nommé le glass harmonica, l'harmonica de verre. Mais parce que l'instrument était réputé rendre fou à cause de ses sons suraigus, ou encore de provoquer des accouchements prématurés et faire aboyer les chiens, le glass harmonica a été interdit par décret en 1835 dans certaines villes d'Allemagne. On sait aujourd'hui que c'était certainement le plomb contenu dans le verre qui provoquait des cas de saturnisme à ceux qui en jouaient. L'instrument qui rend fou, qui, depuis quelques années, fait son grand retour, qu'il évoque le gel de l'hiver pour Heinz Holliger, tel que nous l'entendons actuellement, ou bien qu'il devienne un instrument de l'orchestre permettant d'augmenter la palette sonore des compositeurs, justement comme Jörg Winnemann l'utilise dans son œuvre Harmonica de 2007. la période de purgatoire du glas harmonica de Benjamin Franklin est terminée. Mais il existe également, depuis maintenant 60 ans, un instrument qui reprend le principe du verre frotté, tout en associant ce son si caractéristique aux conceptions des musiques concrètes et électro-acoustiques. Le cristal Bachet. Imaginé par les frères Bernard et François Bachet, l'instrument aux formes délirantes et avant-gardistes est constitué d'une sorte de clavier de tige de cristal mis en vibration par les doigts mouillés de l'instrumentiste. Et contrairement au joli son du glas harmonica, avec le cristal Bachet, on peut imaginer toutes sortes de sonorités, de l'évocation du séraphin aux saturations les plus puissantes. Catherine Brisset, virtuose de l'instrument, a demandé à des compositeurs actuels de lui écrire des pièces spécifiques pour scruter alors les entrailles de l'instrument, comme cette pièce de Sébastien Béranger. Comme quoi le verre contient des sons insoupçonnés. Il y en a un que l'on entend à longueur de temps et qui est devenu l'un des échantillons le plus prisé des producteurs de studio. Patchwork de Brie de Verre. Jackson à Jerry Tard. En passant par Fool's Garden et Billy Joel, introduire un morceau avec un bris de glace est monnaie courante. Et il est vrai que c'est un geste musical assez particulier, un impact extrêmement fort avec un éparpillement soudain de la matière qui s'éteint très rapidement. Denis Dufour, dans ses vocalises, intégrera le bris de verre dans une sorte de lexique de tous les sons du verre. En voici un tutti, comme il le nomme. Lorsque Joseph Anton Reidel crée son installation Glasspiel en 1977, il pense à une architecture de verre, multiple, jouée de toutes les manières possibles. mais il demande à ne pas casser le verre. Du crissement au frottement, du tintement à l'effleurement, mais surtout ne pas casser. Pour ma part, je reste sur ma faim. On est toujours au bord de la cassure, du point de non-retour de ce paysage de verre, comme on en voit ou entend jamais.
Vous voyez qu'on y arrive. Hein ? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Grégoire Lorieux, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes compositeur, réalisateur en informatique musicale chargé de l'enseignement à l'IRCAM. Et je vous invite pour parler ensemble de votre projet, un projet artistique et pédagogique que vous concevez actuellement pour l'ensemble Ars Nova, qui s'appelle Paysages composés et que vous menez auprès de 4 lycées de Poitou-Charentes et qui a commencé d'ailleurs en janvier 2014 et qui finira en juin 2015. Mais avant de rentrer dans les détails de ce projet, je vous propose d'écouter une musique que vous avez apportée qui va tout de suite nous immerger dans ce projet finalement. Une œuvre de 1979 de Jean-Claude Risset qui s'appelle Sud. Voici le premier mouvement. Glorieux, nous sommes en train d'écouter le premier mouvement de Sud de Jean-Claude Risset. Pourquoi être arrivé avec cette pièce qui date des années 70 pour nous parler de votre projet qui est contemporain puisqu'il se passe actuellement ?
Parce que dans cette pièce de Jean-Claude Risset, il y a tout ce qui compose ce projet, c'est-à-dire la beauté et la profondeur des enregistrements qu'on entend là. On ne sait pas si c'est un paysage sonore qui a été enregistré et qu'on écoute brut, ou bien si c'est une composition. C'est finalement quelque chose un peu entre les deux. On voyage entre le son brut que l'on découvre comme si on était au bord de la mer au début et une œuvre sonore composée avec des sons synthétiques.
Qui apparaissent au fur et à mesure en fait, parce qu'on entend bien qu'à partir d'un moment dans la pièce, les sons synthétiques prennent la place en fait des sons naturels.
On sent au fur et à mesure de cette pièce qu'elle est réellement composée en fait. C'est donc un paysage composé en quelque sorte.
Alors ce nom-là, paysage composé, donc c'est le nom de votre projet artistique que vous menez donc dans des lycées.
Oui.
Vous avez à peu près la même démarche que ce que pouvait faire Jean-Claude Risset, c'est-à-dire prendre des sons dans le paysage sonore pour après écrire à partir de ces sons-là.
Oui, c'est même amener les lycéens à avoir cette qualité d'écoute qu'on retrouve dans ces pièces-là. Parce qu'on sent dans ces sons que la beauté de l'enregistrement vient d'une écoute très fine. Je compare souvent au travail du photographe qui doit avoir un œil à la fois alerte et contemplatif. Pour faire une belle prise de son, je crois qu'il faut que l'écoute soit à la fois alerte et contemplative. Et c'est ce que j'essaie de développer avec les lycéens. Donc on commence le projet avec des exercices d'écoute que j'ai emprunté à Murray Schaeffer, qui a écrit une série d'exercices d'écoute très développés. Et voilà, ça permet de rentrer dans cette matière de son. On fait même des promenades sonores avec un casque sur les oreilles, un micro ouvert. Ça, c'est une véritable école de l'écoute, en fait.
Est-ce qu'on pourrait parler de cette flânerie, le flâneur écoutant que développe par exemple Michel Chion à la suite de Pierre Schaeffer, celui qui capte finalement, juste en se déplaçant, l'univers sonore qu'il a autour de lui. Vous donnez cette envie de flâner à ses étudiants, à ses élèves plutôt ?
Oui, mais c'est une flânerie qui est active. C'est une flânerie qui est en pleine conscience. C'est un flâneur éveillé, en quelque sorte.
Est-ce que les réactions de ces élèves sont tout de suite positives ou bien est-ce qu'il y a une forme de rejet, justement, à pouvoir tout d'un coup s'intéresser à son environnement sonore ?
En fait, il y a une véritable fascination dès le début avec le fait de se promener avec un micro ouvert et un casque sur les oreilles. Ça fonctionne tout de suite très bien avec les adolescents. Ils sont fascinés par tout ce qui les entoure, par le fait de pouvoir écouter les sons de très près, de pouvoir également capter des sons qui sont très lointains. Donc il y a cette première approche qui est très ludique. Et ensuite, c'est finalement ces instants qui sont vécus avec intensité, qui sont fixés sur le support, qui deviennent des instants gelés en quelque sorte.
Est-ce qu'on pourrait parler de photographies sonores ?
Oui, c'est des photographies sonores finalement. Et dans le travail de studio, on va pouvoir travailler ce choc esthétique qu'on a eu en le revivant et en le réécoutant et en approfondissant la première sensation qu'on a eue.
Lorsqu'on est écoutant, comme ces élèves, on cherche des sons en particulier lorsqu'ils vont, par exemple, alors on va écouter un field recording, on va revenir sur ce terme-là, qui se passe à La Rochelle. Est-ce qu'il y a des sons qui les attirent plus que d'autres ?
En fait, oui. Quand je leur dis on va aller enregistrer des sons dans la ville, en fait, non, je ne leur dis pas on va aller enregistrer des sons. Je leur dis on va aller enregistrer des ambiances.
D'accord. Le mot ambiance est important.
Le mot ambiance est important parce que ce n'est pas des sons en particulier qu'on recherche. On recherche à enregistrer du silence, en fait. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est un petit peu abstrait au début.
Oui.
On ne va pas essayer de photographier ou plutôt d'enregistrer des éléments précis, comme des oiseaux, du vent.
Une voiture,
des voix. On enregistre des ambiances dans lesquelles il y a ces éléments-là. Ils font partie du paysage, on enregistre un paysage. Voilà.
Et à partir de ça, vous composez donc. Donc là, on va écouter peut-être une première couche finalement de ce projet. C'est justement ce field recording. Alors le mot maintenant est très utilisé même en France, qui veut dire tout simplement enregistrement de terrain.
Oui.
Et qui est associé donc à ces paysages sonores captés. Donc là, nous sommes à La Rochelle et donc c'est enregistré par vos élèves dans un lycée de La Rochelle. Grégoire Loriot, nous venons d'écouter un enregistrement de terrain que vous avez réalisé donc à La Rochelle. C'est intéressant de voir comment se crée finalement une dramaturgie de l'écoute. C'est-à-dire qu'au départ, on a un presque rien. Alors là, je fais référence justement à Luc Ferrari. Mais progressivement se créent tous des éléments qui s'interpénètrent, qui se répondent, voire jusqu'à le reniflement de celui qui est en train d'enregistrer sans doute. Comment ils le perçoivent, ces élèves, en écoutant ensuite ces enregistrements de terrain ?
Quand on réécoute les enregistrements qu'on a fait sur le terrain en studio, c'est complètement différent. C'est un petit peu comme quand on est dans la chambre noire en photographie, on redécouvre ce qu'on a enregistré avec une autre approche. On était au casque, là on est sur des haut-parleurs, c'est déjà assez différent. Et puis je les guide dans l'écoute pour donc approfondir cette sensation qu'ils ont eue à travers les différents plans. Et on va commencer à déterminer quel plan pourrait être intéressant pour faire de la musique. C'est-à-dire on passe progressivement de la perception comme son à la perception comme musique. Donc cette séquence qu'on vient d'écouter elle pourrait très bien être une musique en soi. Il suffit de l'écouter comme telle finalement, c'est ce que disait John Cage quasiment.
L'écouteur devient compositeur finalement, juste en écoutant. Il se crée sa composition.
Oui. Les objets sont là, les objets musicaux sont là, il suffit de les écouter, comme quand on regarde des formes dans les nuages, vous voyez.
Alors, on va parler justement du processus de composition que vous faites ensuite avec ces étudiants, enfin ces élèves, je dis étudiants depuis tout à l'heure, mais ce sont des lycéens, hein, j'insiste bien là-dessus. Mais on va faire une comparaison, enfin pas une comparaison, ce serait mauvais de faire ça, mais plutôt une mise en parallèle avec le travail de Lionel Marchetti, qui est un compositeur, capteur de son, artiste complet, poète, photographe. Ce musicien, par exemple, dans ce portrait d'un glacier, nous donne à entendre finalement ce que l'on ne peut pas entendre avec nos oreilles. Il va chercher des sons, comme dans les gens qui font du field recording, mais va plus loin. Il a une démarche de compositeur. Quelle est votre perception, vous, de compositeur, par rapport au travail de Marchetti dans cette action du rôle humain, dans le travail sur le matériau qu'il enregistre auprès d'un glacier ?
Lionel Marchetti part de sons très rares, qui sont en eux-mêmes assez rares pour être quasiment de la musique. Il s'agit pour lui de simplement souligner, en fait, la musicalité qui est présente, selon lui, dans les sons. Et il souligne ça avec très peu de choses, en fait. On est quasiment sur du field recording brut, qui est déjà en lui-même donc très beau, une matière sonore très belle, mais en fait, il va créer une sorte de structure dessus. C'est pas vraiment une structure, c'est plutôt... vous voyez, comme si un peintre, à partir d'une photo de paysage ou d'un paysage existant, rajoutait des éléments qui mettraient en valeur certaines couleurs, certaines formes. Voilà, et c'est exactement ça qu'on essaie de faire avec les lycéens, c'est d'essayer de souligner des éléments saillants, enfin des éléments saillants ou des éléments beaux du paysage sonore.
glacier de Trélatête de 1173 mètres. Ce matin, réveillé vers 5 heures, couleur métallique et verte, lumière, force, tournoiement de l'esprit projeté, psychisme, sécrétion, lente humeur animale, soudain sonore, aurore en montagne, intelligence. Ça, c'est Lionel Marchetti qui écrit ses poèmes à partir de ce field recording, cette composition qui est le portrait d'un glacier, donc de 1998. Et il insiste sur cette notion, c'est pour une écoute acousmatique. Grégoire Lorieux, qu'est-ce que ça vous dit, écoute acousmatique ?
Une écoute acousmatique, c'est pour moi, c'est une écoute qui projette dans l'imaginaire du son directement. C'est-à-dire que c'est une écoute d'une musique pour elle-même, qui dépasse une perception quotidienne et qui fait rêver sur les sons, en fait.
Il y a quand même une idée d'intention dans la démarche de Lionel Marchetti. Il cherche à nous procurer des choses, parce que par exemple, il utilise des synthétiseurs, quand même, des sons rajoutés, des instruments qu'il rajoute à sa composition. C'est un peu votre démarche, finalement, dans Paysages composés que vous réalisez actuellement, puisque vous êtes en partenariat, enfin plutôt, vous êtes en collaboration avec l'ensemble Ars Nova. Et donc, à partir des field recordings que vous réalisez avec les élèves, après les avoir écoutés, vous y ajoutez des instruments. Comment ça se passe, justement, cet acte de composition à partir d'instruments et de musique naturelle ?
On cherche des points de contact entre les field recordings et les sons d'instruments. En fait, les jeunes compositeurs, donc ce sont finalement des compositeurs amateurs. J'ouvre une parenthèse, en fait, on fait souvent du travail avec les amateurs qui sont interprètes. Et donc, on demande à des compositeurs professionnels d'écrire pour des interprètes amateurs. Là, c'est le contraire. Ce sont des compositeurs amateurs qui vont écrire pour des instrumentistes professionnels. Les instrumentistes de Ars Nova, cet ensemble de Poitou-Charentes, et également accompagnés par des étudiants du CESMD, l'École de musique supérieure de Poitiers. Donc on cherche des points de contact entre ces sons d'instruments qu'ils découvrent.
Oui, parce qu'ils sont aussi méconnus que les sons de leur environnement pour eux, finalement.
Et oui, bien sûr. Donc ils découvrent les sons de leur environnement avec la même naïveté qu'ils découvrent les sons d'instruments. Ils nous donnent des retours sur ce que les sons leur évoquent, qui sont surprenants. Et du coup, il peut y avoir des contacts comme ça qui se font très naturellement entre, par exemple, un whistle tone de flûte ou un son frotté de violon avec le bois, et puis du vent, ou un son d'oiseau avec un son harmonique.
Finalement, ils ne parlent plus de notes ni de rythme, ils sont directement dans la notion de texture.
Oui. Un musicien plus éduqué, disons, passerait par cette notion de note, de solfège, en fait. Et là, on bypasse ça complètement, on arrive directement dans la matière sonore, quoi.
Alors, je vous propose d'écouter justement un tout petit bout de séance de travail que vous faites avec les élèves. Nous sommes à Mel, donc c'est très court, mais on entend qu'il y a vraiment un choix par rapport à une écoute de leur field recording.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce son-là ?
Les bruits de talons.
Les pas.
Mais les pas, ils sont dans...
Les
bruits de talons, ils résonnent. La résonance qui est intéressante dans ce son.
Comment on peut faire... Ouais,
comment on peut faire une résonance avec un instrument ?
Avec comment la faire... caisse de résonance. En tapant sur la caisse de résonance de la contrebasse, en tapant sur la caisse de résonance directement.
Ça fait quoi ?
Ben, ça fait un bruit grave et sourd. Du coup,
ça peut se rapprocher de
ça. Ça peut se rapprocher. Ça, ouais. Après, ça dépend si on tape avec la main à plat ou avec...
Comme ça. On peut taper aussi avec un petit instrument.
Oui, aussi. Donc, ça dépend. Je pense que comme ça, ça peut être en tapant... Ça peut peut-être le faire.
Grégoire Lorieux, nous venons d'écouter donc un court extrait d'une séance donc de travail avec les élèves de la ville de Mel. Là, finalement, on est dans une mise en abîme du field recording, puisqu'on est en train d'entendre un enregistrement d'un commentaire que vous faites sur un paysage sonore. Et ça se passe comment ? C'est vraiment collectif, vos communications avec ces élèves ? Vous les guidez quand même beaucoup dans ce rapport à leur field recording ?
Ça dépend des groupes, mais j'essaie que les échanges soient le plus direct possible entre les instrumentistes et les lycéens. En fait, c'est un véritable laboratoire de création sonore, ce qui se passe là. On est vraiment en plein dans la matière sonore. Et on ne va pas passer par une notation instrumentale, comme on apprend dans les classes de composition. En fait, ils vont enregistrer les sons des instruments, et ils vont les monter directement dans leur logiciel de montage au même titre que les field recordings finalement.
D'accord, donc c'est-à-dire qu'il demande aux musiciens de faire tel geste ou tel autre, tel son.
En pour... imitation des field recordings.
D'accord, et ensuite il compose, comme de l'électronique, oui. En collant, en faisant cette sorte de puzzle entre les paysages sonores et les sons d'instruments.
À charge après aux musiciens qui sont quand même chevronnés, oui. De se guider à travers le montage qu'ils auront fait, mm-hmm. Et d'imiter finalement le montage qui aura été fait. Donc il peut y avoir, on ne sait pas encore, on est en plein projet, donc ça peut être une notation traditionnelle que je refais derrière, mm-hmm. Ou bien ça peut être une notation graphique qu'on va développer, ou bien les musiciens vont travailler à partir du montage de leur son à eux, quoi.
D'accord. Là, justement, votre action aussi en tant que compositeur, c'est-à-dire que vous êtes à la fois guide pour ces jeunes, mais vous êtes aussi celui qui fait le lien avec les instrumentistes. Est-ce que ça se passe bien, cette rencontre entre les élèves et les musiciens ?
Oui, ça se passe très très bien.
C'est vrai.
Les rapports sont directs.
Et les musiciens trouvent les sons que les élèves demandent ?
C'est-à-dire que les élèves ont du mal à formuler, ils n'ont pas de vocabulaire. Ouais. Donc moi, je suis plutôt là comme médiateur pour essayer de comprendre ce que les jeunes ont voulu dire, ce qu'ils essaient d'exprimer, qui est parfois confus. Donc il faut essayer à la fois de les guider, puis d'aller un petit peu plus loin, de proposer quelque chose qui va pouvoir à la fois s'adapter à leur idée, mais aller un tout petit peu après.
Mettre des mots sur une écoute, c'est quelque chose de difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'analyser son écoute. Est-ce que dans vos moments d'école de l'écoute, vous parliez de ça, vous arrivez à identifier du vocabulaire pour vraiment donner du sens à ce qu'ils entendent ?
Oui, le vocabulaire, il existe. En fait, il a été développé par les théoriciens du paysage sonore, Murray Schaeffer en premier. Donc, c'est du vocabulaire assez simple qui se réfère au visuel. Donc, on parle d'arrière-plan, de plan moyen, de détail, de zoom. Ça, c'est assez facile à comprendre.
C'est là, justement, qu'on arrive au point de composition aussi. C'est que finalement, dans un orchestre symphonique, on a aussi ces arrière-plans, sauf qu'on n'en parle pas. On a ces zooms aussi. Et finalement, l'action que vous pouvez faire, l'action pédagogique, permet aussi peut-être à ces étudiants d'écouter mieux, peut-être un orchestre symphonique, en ayant cette place d'écoutant à différents niveaux, comme si l'orchestre symphonique était un paysage sonore.
Effectivement, dans la musique classique contemporaine aussi, on a ces profondeurs de champ, mais qui sont finalement des métaphores de paysages sonores eux-mêmes. Mon objectif, c'est pas, comme on dit souvent en action culturelle, de renouveler le public ou de créer un public qui ira au concert. Mon but plutôt avec cette action, c'est de faire que ces jeunes arrivent à mieux écouter. Et mieux écouter, ça veut dire aussi avoir une meilleure conscience de son corps dans l'espace. Ça passe aussi par un retour sur soi qui est à la fois calme et projeté vers l'extérieur.
Je vous propose justement d'écouter une troisième couche finalement, puisqu'on a entendu la séance, on a entendu le field recording. On va écouter tout de suite un mix finalement avec cette composition faite à partir du paysage sonore. Là, nous sommes à Ruelle et vous allez entendre ici donc là, un paysage composé donc, par Grégoire Lorieux et des élèves des lycéens. Grégoire Lorieux, j'ai comme une idée d'un tableau face à moi, d'une sorte de paysage, c'est le principe, mais surtout quelque chose de très visuel, une matière visuelle qui pourrait être formée au fur et à mesure de vos paysages composés. il y a un rapport visuel pour ces élèves quand ils composent?
Oui, on travaille avec des métaphores en musique de toute façon. Ces métaphores sont souvent des choses de couleur, des choses de matière. Mmh. Et ce projet les fait entrer aussi là-dedans. D'ailleurs, il y a pour le projet avec Ars Nova, il y a également cette année une artiste vidéaste qui s'est associée au projet, qui s'appelle Alice Ferré. Mmh. Qui fait un très beau travail avec les élèves, où elle va chercher, de la même manière que nous, on va capter des sons dans l'environnement, elle va capter des images, des matières, des éléments du paysage, pour faire voir ce paysage d'une autre manière, pour ouvrir le regard sur le paysage à travers des éléments comme ça. Et ensuite, elle va travailler avec les élèves pour la restitution finale, qui aura lieu au Théâtre de Poitiers, au TAP, le 3 juin. Mmh. Il y aura donc les pièces des musiciens qui seront jouées, et puis également des installations vidéo, où ces matières d'images qui auront été captées auront été retravaillées et projetées sur un écran de fumée, sur des tissus, sur un écran un peu bizarre, voilà, de manière à reconstituer ce paysage sonore d'une manière artistique, esthétique.
En fait, c'est rendre plus curieux, votre projet?
C'est rendre plus curieux, c'est rendre curieux et conscient à la fois.
Et vous, ça vous change aussi, dans votre manière d'écouter la musique et votre environnement?
Oui, ces projets-là me portent, ces projets-là me mettent à une place que j'aime bien, qui est la place de celui qui écoute et de celui qui restitue.
Alors, on va terminer notre interview avec Sud, à nouveau, de Jean-Claude Risset. Quand vous écoutez Jean-Claude Risset actuellement, c'est-à-dire quasi 35 ans après la création de cette pièce-là, est-ce que vous voyez dans Jean-Claude Risset une démarche commune avec ce que vous faites aujourd'hui avec les lycéens de Poitou-Charentes?
Oui. J'aimerais bien avoir eu le même parcours que Jean-Claude Risset, c'est sûr. Moi, je vois dans ces œuvres-là, de toute façon, ce que je ressens chez Jean-Claude Risset, c'est la même sensibilité, la même poésie que j'essaie de faire passer aux lycéens, en fait.
Merci beaucoup Grégoire Lorieux d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes venu nous parler donc de paysages composés qu'on va suivre et qui sera donc restitué en juin 2015, que vous faites en partenariat avec l'ensemble Ars Nova.
Oui, et la région Poitou-Charentes également. Il y a également un autre projet qui est en route, un deuxième projet en Île-de-France, dans trois lycées d'Île-de-France, avec le compositeur Roque Rivas.
D'accord.
Et ouais. Qui sera présenté au Festival de l'Île-de-France cette année.
Très bien, et on vous retrouve d'ailleurs prochainement sur l'antenne de France Musique dans un Alab rêvé qui vous est destiné avec un morceau qui s'appelle Paysage et qui sera interprété par l'ensemble Kern. Et on y retrouvera justement de nos paysages composés dont nous venons de parler depuis une demi-heure. Merci beaucoup, on retrouve vos informations évidemment sur grégoirelorieux.net et n'oubliez pas d'aller vous renseigner justement sur ce projet sur le site de Ars Nova, arsnova-ensemble.com. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
And so the question was, okay, how do I relate these to the traditional musical instruments? So,
la question était maintenant comment mettre tout cela en relation avec les instruments traditionnels. Eh bien, par exemple, les sirènes de bateaux appellent, les clarinettes basses ou les trombones, les portes de voitures qui claquent sont doublées par des tambours graves, les klaxons des voitures par des hautbois ou des clarinettes. Tout ceci, évidemment, ne ressemble pas à un américain. Paris de Gershwin, ce n'est pas un hymne de gloire à la ville, c'est beaucoup plus un questionnement très fin 20e siècle à propos des réalités d'une ville, reconnaissant ses dangers, sa laideur, son bruit, sa brutalité.
Zoom sur City Life de Steve Reich. Composé avec les sons de la ville. Les compositeurs urbains sont florès depuis le début du XXe siècle, de Varèse et ses sirènes à George Gershwin et ses klaxons. Mais pour Steve Reich, être un compositeur de la ville, c'est comme être un chroniqueur de la ville. Pour créer un documentaire sonore de la ville assujetti à ce que son oreille entend, imagine à l'écoute des sons de New York. Steve Reich, alors qu'il commençait à composer ses premières œuvres dans les années 60, était chauffeur de taxi à New York. À l'écoute du tumulte, du collage sonore incessant de la ville. Du crissement des pneus aux klaxons et sirènes, lorsqu'il compose City Life en 1995, il pioche des sons, des motifs dans le quotidien de New York. Jusqu'au vendeur, au camelot, avec son appel « Check it out », un cri de New York, qui devient alors la souche mélodique de City Life. Comme le dit Steve Reich, il crée, à partir de la langue parlée, une voice instrument, les instruments reprenant alors les trois notes naturelles de la voix du camelot.
Chaque voyelle que nous disons a une hauteur musicale, on ne le remarque pas toujours, mais cela colore notre vie. Nous parlons maintenant et nos inflexions ont une mélodie. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais la façon dont on le dit à quoi je fais référence maintenant. La mélodie même de la parole a, je crois, une grande importance dans notre vie quotidienne et dans la façon dont nous nous comprenons.
Yes, that's one word. Yes, that's another word. So, the speech melody is a very big part of our everyday emotional life and how we understand each other.
Steve Reich à l'écoute de ses contemporains, des sons contemporains, se calant sur les rythmes naturels de l'industrie et de la ville. Il part avec son micro dans les rues de New York pour capter le réel. Il nous dit : Je me souviens que c'était déconcertant. Que la musique sur bande, ou musique concrète comme on l'appelait, présentait souvent des sons que l'on ne pouvait pas reconnaître facilement. Alors que ce qui me semblait intéressant, c'était que le magnétophone pouvait enregistrer des sons réels, comme la parole, comme une caméra enregistre des images réelles. À la seule différence que dans City Life, les échantillons de sons de New York sont joués par des musiciens actionnant un échantillonneur sous forme de clavier. Et qu'ils peuvent alors transposer ces sons réels pour les marier aux harmonies définies par d'autres sons. Une image du réel à l'image de la musique de Reich. les sons de la ville et la ville elle-même présentent tout le temps des principes compositionnels que Steve Reich utilise depuis les années 60. Comme le décalage de phase. Lorsque deux objets identiques se superposent, puis se décalent pour enfin se superposer à nouveau. Il suffit d'observer les jambes de la foule marchant dans la rue. Certaines sont en phase, synchronisées. D'autres évoluent à différents tempos, créant des contrepoints de jambes. Ou encore des sirènes de pompiers, légèrement différentes, entendues à deux endroits, ne cessant de se décaler, se recaler, se décaler, se recaler. Le décalage de phase est naturel dans le paysage visuel et sonore de la ville. Car la ville sonore de Reich est une ville dans laquelle s'expriment ceux qui ne peuvent le faire ailleurs. Comme ce pasteur, enregistré dans la rue en 1965, à l'origine d'une de ses premières œuvres. Trente ans plus tard, c'est l'enregistrement d'une manifestation de Noirs américains près de City Hall à New York qui fait la matière du troisième mouvement de City Life. Ou encore les enregistrements des pompiers lors de l'attentat contre le World Trade Center le 26 février 1993, tels qu'on les entend dans le cinquième mouvement. Avec le paysage sonore tel que l'entend Steve Reich, nous sommes à la frontière entre le paysage sonore moralisé et esthétisant de Gershwin et le paysage sonore composé à partir de field recording brut de Ferrari ou Marchetti. La ville sonore de Steve Reich est répétitive comme sa musique. Elle propose une écoute, une prise de conscience de la transformation en continu d'un matériau qui semble pourtant toujours le même, pour que nous écoutions différemment notre espace public, notre espace politique. Extinction du cri du patchwork dans les sons de la ville, comme l'entend Steve Reich. Merci pour votre écoute de ce numéro sur l'écoute. Cette émission a été réalisée par Perrine Mingui, avec aujourd'hui à la technique Jean-Michel Coquille. Merci à Flora Sternadel pour toutes les recherches sur ces sons bizarres et souvent introuvables que je lui demande. Merci au bureau de l'INA qui nous confie toutes les semaines les archives pour nos Zooms. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernier numéro sur l'écoute qui terminera en beauté notre année 2014. Je recevrai pour ce faire Mathias Forge, tromboniste, improvisateur et performeur aux multiples réflexions, mais qui tourne toutes autour de ce que nous entendons et surtout comment nous l'entendons. Entre-temps, n'hésitez pas à réécouter toute la série de ce mois en podcastant l'émission ou sur le site de France Musique. Ça vous permettra de préparer votre tympan à l'expérience de l'écoute du cri du patchwork.
Si je fais 1... Tagaram, 1, parap, 2, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, 1, parap, 2, 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble, hein? Bonjour, au revoir, voilà.
Il est 17h, vous êtes nécessairement sur France Musique, au moment où nous retrouvons All That Jazz. Bonjour Arnaud Merlin.